Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, je veux te remercier pour ta parole. Je te remercie pour les principes de ton royaume. Je prie pour que tu nous aides, Seigneur. Soit à changer. Ou soit, Seigneur, à aider d'autres personnes. Qui ont peut-être ce gros problème, Seigneur. Dans leur vie de rébellion, Seigneur. Père, je te remercie. Parce que tu veux des enfants. Qui sont obéissants. Tu veux des enfants, Seigneur. Qui comprennent. Et qui sachent marcher avec un caractère divin. Père, je veux te louer pour cela. Parce que tu es un Dieu qui nous aide à comprendre. Nous voulons être éduqués dans ta parole. Nous voulons l'intelligence de ta parole. Nous ne voulons pas être des ignorants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être équilibrés dans les choses de l'esprit, mais aussi, Seigneur, dans le caractère de Christ. Nous ne voulons pas nous comporter n'importe comment, mais comprendre quelles sont les valeurs que tu veux qui soient implantées en nous. Dans le nom de Jésus, je te remercie. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des fruits pourris de la rébellion. Et nous allons découvrir un certain nombre de choses que la parole de Dieu nous dit à propos de cette attitude parfois qu'on peut avoir. Et c'est un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur. Et encore hier, j'étais au téléphone avec quelqu'un à l'étranger, un pasteur à l'étranger, qui a affaire face justement exactement à ce genre de problème. Et je m'aperçois, je parlais d'ailleurs aussi avec Fortran hier sur ce sujet-là, et en expliquant ce qu'était l'autorité spirituelle, etc., etc. Et on a eu un très très bon échange sur ce côté-là. Parce que de plus en plus, je veux que nous comprenions les choses divines. Certains parmi vous, un jour, vous aurez des églises. D'autres, vous allez faire des choses sous de l'autorité spirituelle. Vous en faites ici dans l'église. Mais aussi, nous voulons que le royaume de Dieu s'étende. Peut-être que certains parmi vous, vous serez envoyés dans différents pays. Et vous allez démarrer des œuvres. Peut-être que d'autres, vous serez là et vous allez servir un serviteur de Dieu. Et je vais vous donner un certain nombre de clés qui sont importantes pour vous aider et pour comprendre. Moi, personnellement, j'ai compris ces principes-là, mais je les ai compris d'une façon très dure. Vous savez, quand on est la génération qui se donne au Seigneur, très souvent, nous faisons de graves erreurs. Et après, nous disons, mais pourquoi j'ai fait ça ce jour-là? Pourquoi est-ce que j'avais cette mauvaise attitude? Et finalement, on s'aperçoit que on devient des instruments du diable, des fois. Et d'une façon qui est dommage. Et parfois, on voit des destinées gâchées. On voit des vies ruinées avec certaines attitudes. Et l'attitude de la rébellion, parfois, qui peut être dans certains chrétiens, eh bien, en fait, c'est une attitude qu'on va retrouver partout dans le monde, d'ailleurs. Moi, j'entends des histoires qu'on peut entendre ici sur le continent, qu'on va entendre en Europe, qu'on va entendre en Amérique. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'homme. Il n'y a pas des hommes meilleurs que d'autres. La nature humaine, c'est la nature humaine. Et quand on découvre le Seigneur, parfois on peut avoir de bonnes attitudes et parfois on peut avoir de mauvaises attitudes qui nous amènent à faire de graves erreurs et qui parfois peuvent nous amener même à rétrograder très sérieusement. Alors, nous allons voir un petit peu d'abord quelle est l'origine de la rébellion dans la Bible. Eh bien, nous le trouvons avec un personnage qui s'appelle le diable, bien sûr. Dans Ésaïe 14, la Bible va nous montrer que ce personnage, le diable, va se rebeller contre Dieu. Et donc, on va trouver que l'origine de la rébellion en général, c'est-à-dire du refus d'accepter une autorité de ses
sous-maîtres
et de manifester ce refus, eh bien, on va le trouver à l'origine avec le péché du diable. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, tout était parfait. Tout marchait parfaitement. Dieu fonctionnait d'une façon absolument parfaite avec toute sa création. Mais la Bible nous dit qu'un jour, il s'est trouvé dans un chérubin qui s'appelait Lucifer. C'était son nom avant sa chute. Il s'est trouvé une attitude qu'on va lire dans Ésaïe chapitre 14 au verset 13, et nous allons découvrir que l'origine même de la rébellion, eh bien, on va la trouver au travers du diable. On va lire peut-être à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre brillant, c'est Lucifer, littéralement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre ou par terre sur la terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion du nord. Verset 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Dore kuri 12 ewe kuno korotse uvuye kwijuru wa nyene yo mu rubungu bunguwe wa mwana w'umutwenzi ewe ingene uciwe ugashika hasi wewe watsinda mahanga kuri 13 wari wareye mu mutima wawe uti nzoduga nje mu ijuru nkuzi ngoma yanje sumbe inyenyeri z'Imana uti nzovyagira ku musozi wikoraniro mu ruhande rw'impera y'iburaruko Amen.
Et en fait, ici, on voit que le diable a cherché à faire quoi ?
Satan a cherché à faire quoi ?
À usurper l'autorité de Dieu. C'est-à-dire à prendre la place de Dieu. Dieu est Dieu. Satan était une créature, Lucifer, astre brillant. Chérubin, comme le dit Ézéchiel 28, aux ailes déployées, tu étais parfait en beauté. Dieu l'avait créé parfait.
Il
lui avait donné une position élevée. Mais ce qui s'est passé, c'est que le diable, Lucifer, qui n'était pas à l'époque son nom, c'était pas le diable, il a commencé dans son cœur à dire: je vais prendre la place du Très-Haut. En fait, je vais faire sortir l'autorité. Je vais contester l'autorité. Je vais me rebeller contre l'autorité pour essayer de prendre la place de Dieu. C'était l'action la plus stupide qu'il a jamais pu faire. Qui peut prendre la place de Dieu ? Qui peut oser dire ? Alors que Dieu est Dieu. Il est hors classe. Il y a le créateur et il y a la créature. Et il y a un fossé infranchissable entre les deux. Et en fait, le diable s'est permis de vouloir créer une rébellion dans le ciel pour prendre la place de Dieu. Et évidemment, il a échoué. Au chapitre 12 d'Apocalypse, au verset 3, il nous est parlé de quelque chose dont la plupart des théologiens pensent... Non, ce n'est pas 3, excusez-moi. Je me suis trompé de verset. Il nous est parlé de ce que les théologiens pensent tous à propos de la chute du diable. C'est au verset 4. C'est juste après. Bon, oui, effectivement, trois en partie et c'est quatre après. Ok.
On
va dire, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, le diable, bien sûr, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les cornes, c'est toujours le symbole d'une autorité dans la Bible. Et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait à terre ou sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, etc. Alors, ici, très souvent, c'est relaté au fait de la chute du diable, cet événement, ce verset. Que le dragon, le diable, aurait emmené un tiers des anges dans sa chute, dans sa rébellion. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Satan a voulu se rebeller. Et c'est très intéressant quand nous étudions Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, parce qu'il va nous être parlé de quelque chose à propos justement de cet aspect de rébellion chez les inconvertis. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il s'adresse à des chrétiens nés de nouveau, mais il leur dit, avant, quand nous étions païens, donc, nous marchions dans nos péchés, okay, on était morts spirituellement par nos péchés, on marchait dans nos péchés selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Regardez bien ce qu'il va dire juste après. Selon quoi ? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on voit que la racine de tout ce qui est rébellion, c'est-à-dire tout ce qui ne veut pas obéir à Dieu, elle vient du diable. Mais que la Bible nous dit que c'est un esprit qui agit. C'est un esprit qui agit. La Bible nous parle ici du prince de la puissance de l'air. C'est qui ? On sait que c'est le diable. Rappelez-vous, le diable a réussi à avoir la gestion des systèmes de ce monde. Donc dans ce monde, le prince de la puissance de l'air, le diable, influence les êtres humains. Et je vous rappelle que cette influence, vous pouvez la limiter. Vous pouvez la limiter et inverser son sens pour être influencé par le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important à comprendre, bien évidemment. Parce que les chrétiens, quand on commence à parler du diable, ils veulent en parler tout le temps, et comme s'il était extrêmement fort, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait chez eux. Et ça, ce n'est pas le cas. Il faut savoir mettre le diable à sa place. Mais la Bible nous dit clairement que nous étions des fils de quoi ? De la rébellion. La rébellion contre Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on appartenait au diable. Et que le diable nous influençait dans des mentalités rebelles contre Dieu. Qui ont provoqué aussi beaucoup de mentalités rebelles contre, par exemple, les parents. Contre la société en général, parce que nous étions pécheurs, et contre toute autorité, ça se manifeste plus ou moins chez le pécheur, où il est plus ou moins rebelle par rapport à certaines choses. Il y a des gens, ça transpire de partout, ils ne supportent pas qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux. Il y a des gens comme ça que vous rencontrez dans la vie, et ils vous disent, non, moi, c'est sans foi ni loi, sans Dieu ni maître. Et ils vous disent ça clairement. Ils disent, moi, je veux aucune autorité, je ne respecte rien au-dessus de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le summum, le sommet donc de la rébellion qui se manifeste au travers de l'esprit et la puissance de l'air. Ça, c'est la manifestation de ce que des influences diaboliques dans ce monde. Parce que je vous rappelle que Dieu a créé le monde avec de l'ordre. Mais ce monde a été mis en désordre. C'est pour ça que nous, les chrétiens nés de nouveau, nous devons comprendre un certain nombre de choses à propos de l'ordre divin qui doit être dans nos vies. Parce que s'il n'y a pas cet ordre-là, tu ne peux pas fonctionner selon l'influence du royaume de Dieu. Donc la Bible nous parle de cela. Alors, il y a plein de conséquences. Quand un chrétien ne change pas sa mentalité. D'abord, on va voir un peu les effets néfastes, les fruits pourris quand quelqu'un a une attitude rebelle. Donc, nous nous donnons au Seigneur. Mais je vous rappelle une chose. Votre esprit naît de nouveau. Dieu le contrôle, c'est-à-dire Dieu règne dans votre esprit. Mais vos mentalités ne sont pas nées de nouveau. Et il y a des gens, ils rentrent dans le royaume de Dieu et ils ne transforment jamais leur mentalité. Et ils se retrouvent avec bien des problèmes dans leur vie. Vous savez, je suis obligé de vous enseigner parfois sur des choses comme ça. Je préférais vous enseigner sur la foi, sur les finances, sur le Saint-Esprit. Je préférais faire ça. Mais des fois, on est obligé d'enseigner sur les mentalités. Parce qu'il y a des choses qu'on doit vraiment changer en nous.
Ou
on peut aussi aider des personnes qui ne comprennent pas bien ce qui se produit des fois dans leur caractère. Parce que nous devons construire nos caractères. Il y a des choses dans lesquelles nous devons insister afin que nos caractères soient solidement créé dans le Seigneur. Parce que je vous rappelle, vous pouvez avoir les réveils les plus extraordinaires dans des endroits. Si le caractère de Christ n'est pas construit dans les gens, eh bien le réveil sera foutu en l'air. Parce que là, je vous garantis, je connais comme ça une église à l'étranger qui vient de vivre quelque chose de très fort dans le Seigneur. Ils étaient 50-60 et un dimanche, ils se sont retrouvés à plus de 200-250. Et plein de gens qui ne se convertissent pas habituellement se sont donnés au Seigneur. Et le pasteur est très débordé par rapport à ça. C'est normal, il avait un invité qui est venu et Dieu a fait vraiment des choses extraordinaires. Et lui-même est complètement surpris de ce que Dieu est en train de faire. Et évidemment, au milieu de ça, vous savez, c'est quand il y a des pressions que l'on découvre vraiment qui est quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans une personne réellement tant qu'elle n'est pas sous pression relationnelle avec vous. C'est le jour où ces gens-là sont sous pression relationnelle que vous voyez qui ils sont. Si ce sont des gens loyaux, fidèles,
si
en fait, c'est là où vous vous apercevez qui vraiment ces personnes avec qui vous êtes sont réellement. C'est sous la pression. Mais quand il y a des pressions spirituelles, quand il y a des choses qui se passent dans l'esprit, croyez-moi, le diable va utiliser un instrument qui s'appelle la rébellion. Et très souvent, c'est le cas. Vous pouvez étudier tous les réveils que vous voulez. Vous pouvez étudier tous les mouvements d'esprit que vous voulez. Vous verrez que la plupart du temps, ces mouvements-là se sont arrêtés soudainement. Parce que dans les gens, il n'y avait pas le caractère de Christ qui était
infusé.
Étudiez tout ce que vous voulez, tous les mouvements de l'Église, du Saint-Esprit. Vous verrez que partout, quand des mouvements se sont arrêtés brusquement, il y avait une graine qui était là. Et très souvent, c'était la graine de la rébellion. C'est pour ça que c'est très important à comprendre. Le premier qui s'est rebellé contre Dieu, c'est Adam. Adam n'a pas été soumis à Dieu. Adam a refusé de se soumettre à Dieu. Il a obéi une partie à Dieu. Mais ce qui lui était interdit de faire, il l'a touché. Et lui, il s'est passé une catastrophe totale. Parce qu'il avait dans ses mains la gestion des systèmes de ce monde. Que Dieu lui avait transmis. Adam avait d'immenses responsabilités. Et il avait tout pour réussir. Mais Adam a trahi Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Pas forcément d'une manière directe en disant « Dieu, je ne veux plus de toi, mais je vais serrer la main du diable. » Mais il l'a fait quand même. Alors, il y a la rébellion envers Dieu que l'on peut par exemple retrouver chez Caïn aussi. Quand on regarde Caïn et son histoire, on va s'apercevoir que Caïn avait de la rébellion dans son cœur. La Bible nous dit au chapitre 4 de la Genèse, on va lire à partir du verset 1, et il est dit, Adam connut Ève, sa femme, c'est-à-dire une relation sexuelle avec sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3, au bout de quelque temps, regardez bien, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Regardez l'attitude d'une personne rebelle. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu agis de la bonne manière, si tu te soumets à ce que j'ai dit, voilà, c'est ça que ça veut dire ici, tu relèveras ton visage. Par contre, si tu agis mal, c'est-à-dire, sous-entendu, si tu te rebelles à mon ordre, si tu ne fais pas comme je t'ai dit de faire, alors, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. La Bible nous dit, dans un autre passage, que Caïn était du malin. Ici, on voit l'attitude. Caïn, s'il avait eu un esprit soumis, il aurait dit à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas bien. Je désire m'approcher de toi, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas t'approcher de moi. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui se passe? Et Caïn a refusé de faire ça. Caïn avait une attitude de rebelle. D'ailleurs, ça s'est très rapidement manifesté parce qu'il a tué son frère. C'était le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas été très long. Ça n'a pas été 50 générations avant qu'il y ait quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Ça a été très rapide, ça. Ils sont chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève. Ils ont des enfants, les enfants grandissent. Et déjà, la première génération, on a un meurtrier. Pourquoi on a un meurtrier? Parce qu'il y a un esprit rebelle. Il y a quelqu'un qui refuse de faire comme Dieu lui dit de faire. Caïn était croyant, Caïn croyait en Dieu. Ah, il était croyant, Caïn. Il n'était pas en train de dire Dieu n'existe pas. Par contre, Caïn, il avait typiquement l'attitude de celui qui rebelle. C'est-à-dire qu'il disait, oui, je vais faire ça, mais je vais le faire de ma façon. Quand tu commences quand on te dit quelque chose et que tu penses que tu es d'accord pour le faire, mais que tu dis je vais le faire à ma façon, c'est un problème de rébellion en toi. Je vous dis ça pour détecter des choses qui vous aideront Je vous enseigne ça pour vous aider, pour que vous compreniez qu'il y a des effets tellement destructeurs quand on a une mentalité rebelle, qu'on va voir qu'on peut aller jusqu'à la destruction totale de sa vie quand on est comme ça. Donc déjà, un signe typique d'une mentalité rebelle, c'est des gens qui disent « oui, je le fais, mais je le fais à ma façon. » Ça dénote quelque chose, une attitude.
Ce n'est
pas quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui a une attitude de rébellion et qui peut très rapidement s'amplifier.
Vous
voyez, Cain avait une attitude, il y avait un terrain de rébellion chez lui. Donc, il n'a pas pu s'approcher de Dieu parce qu'il s'est rebellé sur la façon dont il devait s'approcher de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas s'approcher de Dieu parce qu'il avait besoin de Dieu. On a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin régulièrement d'être fortifié dans le Seigneur. On a besoin de communion avec Dieu. Parce que quand tu commences à négliger ta communion avec Dieu, tu risques de tomber. Exactement ce que Cain a vécu. Le péché se couche à la porte. C'est exactement ce qui va se passer ici. Dieu lui dit, non, si tu fais de la façon dont je t'ai dit de faire. Et il le savait, je ne vais pas insister là-dessus, mais Adam et Ève avaient enseigné leurs enfants, c'est sûr. Parce que Dieu ne peut pas reprocher quelque chose à Cain qui ne savait pas. Cain savait qu'à partir du moment où on s'approchait de Dieu, on devait le faire de la façon divine. C'est-à-dire avec un sacrifice. Et Cain a refusé ça. Dieu l'a repris. Et il n'a pas accepté la réprimande du Seigneur. Ça aussi, c'est un signe typique de quelqu'un qui a une mentalité rebelle. Quand quelqu'un, ton supérieur ou ton père ou qui que ce soit comme autorité qui est au-dessus de toi, te dit quelque chose, comment est-ce que tu réagis? Quelle est ton attitude? Ton patron te dit quelque chose. Comment tu réagis? Oui, mais. Ça, c'est une attitude rebelle.
Ce
n'est pas une attitude de quelqu'un soumis. C'est une attitude de quelqu'un qui conteste. Et là, Cain contestait. Il ne voulait pas accepter la réprimande de Dieu. S'il avait dit, Seigneur, c'est vrai, pardon. D'ailleurs, je suis un peu étonné. J'avoue, quand je relis le début de la Bible, le mot, l'expression « Seigneur, pardon », on ne la trouve pas. On
ne
la trouve pas chez Adam et Ève. On
ne
va pas la trouver chez Cain. On a du mal à la trouver. Hein. Il faut faire quand même un certain parcours dans la Bible pour commencer à comprendre que l'homme doit venir avec Dieu en lui demandant pardon. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc, quelqu'un qui a une attitude rebelle, c'est quelqu'un qui veut toujours faire de sa façon. Alors qu'il a une autorité au-dessus de lui. Apprends à faire comme on te dit de faire. Ça va travailler ton caractère. Ça va te purger de cette mentalité rebelle qui peut être dangereuse dans ta vie. Ça peut commencer tout petit, cette histoire-là. Et le jour où il y a des pressions, ça peut se manifester d'une manière incontrôlée. Lui, Cain, ça a terminé par un meurtre. Imaginez-vous, ça a commencé par quelque chose et il a eu une tellement mauvaise attitude que ça a été un terrain favorable pour que le diable puisse faire passer sa nature au travers de Cain. C'est-à-dire la nature de la rébellion. Alors, qu'est-ce que produit la rébellion encore? Psaume 68. Un principe relationnel ici. Je Je vous assure, il faut vraiment travailler nos caractères par rapport à
ça.
Plus on le fait, plus on sera béni. Mais vraiment, on voit souvent ce problème-là chez les chrétiens. Et on le voit, et souvent, c'est quelque chose qui les empêche d'avancer chez certaines personnes. Moi, j'ai vu des gens qui sont appelés au ministère, qui n'entreront jamais dans leur ministère à cause de ce genre d'attitude. Des gens que Dieu veut bénir et utiliser, qui
ne
pourront jamais être utilisés la façon dont Dieu leur a promis à cause de ce problème-là. Vous savez, des fois, il y a des racines en nous qu'il faut ôter. La colère, la jalousie, vous voyez, des choses comme ça, des sentiments négatifs qui sont parfois en nous, les rivalités. Il y a beaucoup de choses comme ça qui parfois sont ancrées en nous et qu'il faut retirer dans nos vies. Et la rébellion fait partie. La rébellion fait partie de certaines racines que nous devons enlever. Alors, il est dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Regardez un peu ce qu'il dit ici. Les rebelles seuls habitent les lieux arides, c'est-à-dire là où il n'y a personne. Vous voyez, ça, c'est ce que la Bible dit et c'est une vérité. Quelqu'un qui n'est jamais soumis, qui crée des histoires partout, vous n'avez pas envie d'être autour de cette personne. Quelqu'un qui n'accepte jamais une autorité au-dessus de lui, qui met du désordre donc partout, vous
n'avez
pas envie de le fréquenter. Ces gens-là vont rapidement être isolés et s'isoler eux-mêmes par leur attitude. Où les seules personnes avec qui ils vont être, c'est des personnes qui leur ressemblent. Parce que relationnellement, sachez une chose, nous attirons ce que nous sommes. Et c'est normal. Les caractères compatibles s'attirent. Dans tous les domaines, au fil des années, les caractères compatibles s'attirent. Les caractères incompatibles se repoussent. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très calme, et bien, en général, vous n'aimez pas avoir quelqu'un juste à côté de vous qui n'arrête pas de parler toute la journée 24/24. Ça vous fatigue. Parce que vous dites, non, moi, j'aime bien être tranquille, à faire mes trucs, etc. Et puis, de temps en temps, évidemment, parler, oui. Mais des gens qui ont un esprit rebelle, très souvent vont se retrouver isolés. Ou alors, ils vont se retrouver ensemble avec d'autres personnes qui ont le même genre de mentalité. Et ils vont aller nulle part. Ils vont se retrouver dans des lieux isolés, arides. Parce qu'ils vont se rebeller contre une autorité, quelle qu'elle soit. Et cela va leur porter des préjudices. Ils vont se retrouver seuls. Ça se voit souvent. Vous savez, des fois, il y a des divisions dans des églises. Et alors, des fois, il y a un petit groupe de gens qui font des histoires. Je
ne
parle pas du tout d'ici. Hein. Je vous donne des exemples, c'est pour vous aider.
Hein.
Ne pensez pas que je fais cet enseignement pour un problème majeur ici, pas du tout. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais j'essaie de vous expliquer parce que dans votre vie, vous allez rencontrer ce genre de choses. Et très souvent, ce qui se passe comme ça, quand il y a des églises qui se divisent, c'est des petits noyaux qui font beaucoup d'histoires, qui amène cet esprit rebelle chez les autres. Et d'un seul coup, vous avez des gens qui étaient bien, qui se sont fait complètement polluer, qui commencent à se mettre dans ces groupes-là. Et puis le groupe va partir avec ces gens-là qui ont été pollués. Et quelques années plus tard, ces gens qui au départ étaient bien, mais quand ils se sont fait polluer par ce genre d'esprit rebelle, ils vont vous dire, mais non, moi ces gens-là, je les ai laissés depuis longtemps parce que j'ai vu qu'ils étaient pas bien intentionnés. Et ces gens-là, très souvent, se retrouvent tout seuls. Ceux qui ont été à l'origine des rébellions se retrouvent tout seuls. Sauf qu'entre-temps, il y a eu du dégât. Il y a des gens qui ont été blessés. Il y a des brebis à qui on a fait du mal. Parce que les rebelles, jamais, ne s'occupent du peuple. Les gens qui créent des rébellions, qui créent des problèmes dans n'importe quelle institution, ce sont toujours des gens qui ont des intérêts personnels. Vous croyez que le diable, il n'avait pas d'intérêt personnel? Mais évidemment qu'il en avait. C'était lui qui voulait prendre la place de Dieu. Et partout où vous verrez des quelques personnes qui, par exemple, dans une société, il peut faire des histoires contre le patron, contre des associés, etc. histoire de prendre la place. L'objectif étant de prendre la place,
et
bien, vous verrez, ce sont toujours des gens qui ont des ambitions personnelles. Ils s'en foutent de la société, ils s'en foutent du reste, l'important c'est qu'ils aient de l'argent. Dans chaque endroit ou institution, même dans les États où il y a des choses qui se produisent comme ça, souvent les gens ont des ambitions personnelles. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Des personnes qui veulent eux-mêmes avoir tout dans les mains. Mais dans cela, il y a toujours des victimes. Des gens qui ont suivi et qui après sont victimes. Alors la perte de relation, ça c'est tout à fait classique. Alors une autre chose que vous trouverez chez les gens qui ont un esprit rebelle, c'est qu'ils vont gâcher leur destinée. Et là on a vraiment l'exemple typique d'un homme qui a gâché sa destinée. C'est le roi Saül. Le roi Saül, dans 1 Samuel, chapitre 15, avait vraiment cette attitude rebelle. 1 Samuel, chapitre 15, il avait vraiment typiquement l'attitude du rebelle. Et cet homme a complètement gâché sa destinée. Il a tout mis par terre. Il avait une destinée divine immense. Dieu avait fait de lui le premier roi de son peuple. Quel honneur d'être choisi par Dieu pour être le premier roi du peuple de Dieu, de diriger le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, quand il a reçu cet appel de la part du prophète Samuel, il a dit, Saül a dit, qui suis-je? Moi, je suis d'une petite famille. Tu me parles comme si j'étais un grand, alors que je suis un petit inconnu. Et ça, c'était son attitude au départ. Mais ça n'a pas duré longtemps. Saül, typiquement, est la personne qui a une mentalité rebelle. Regardons au début du chapitre 15, à partir du verset 1, et on va lire jusqu'au verset 3 d'abord. Il est dit, Samuel, donc le prophète, dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il y ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévoulez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu y feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc Dieu va lui dire, tu vas dévouer, c'est-à-dire tu vas tout détruire. Donc Saül va partir là-bas, il va battre les Amalécites, et il est dit au verset 8 et au verset 9, il est dit, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Verset 9, et regardez bien ici, mais, vous savez quand la Bible nous dit « mais » un « mais » quelque part, il faut y prêter attention, parce que ça signifie qu'il y a quelque chose de spécial. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc Dieu va révéler à Samuel que Saül ne va pas faire l'affaire. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est là ce qui m'intéresse le plus, on va faire défiler verset 10, s'il vous plaît. Puis verset 11, là Dieu va parler à Samuel, et on va lire verset 12. Et il est dit, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Ça y est, le monsieur commence à se prendre pour quelqu'un d'important. Ça, c'est le problème. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Là, on commence à voir l'orgueil du leader. Parce qu'avec la rébellion, il y a toujours l'orgueil. L'orgueil et la rébellion, ce sont deux traits de caractère qui marchent main dans la main. Quelqu'un qui a un esprit rebelle, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, obligatoirement. Pourquoi ? Parce qu'il veut prendre la place de quelqu'un d'autre. Ou il veut faire des choses qu'on ne lui a jamais demandé de faire. Mais regardez bien l'attitude après de Saül par rapport à ce qu'il a fait. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit... Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai obéi à la parole de l'Éternel. Mais vous savez, le prophète Samuel, ce n'était pas un enfant. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, qui avait une influence gigantesque sur le peuple d'Israël. Quand Samuel parlait, les Israélites écoutaient. Quand Samuel disait au peuple, je veux que tout le monde vienne là, fasse un jeûne et prière et se repente, tout le monde venait. Il appelait le peuple, il faisait n'importe quoi, tout le monde suivait. Samuel. Et là, il va voir chez Saül une attitude de rebelle. Et c'était très clair. Souvent, les gens qui commencent dans une attitude de rébellion diront toujours, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Mais ils vous cacheront toujours le reste. Faites très attention à ce genre de choses. C'est une très mauvaise attitude. Quand on t'a demandé de faire quelque chose, si tu ne l'as pas fait comme on te l'a demandé, et au moins l'honnêteté de dire, cette partie-là, je l'ai fait comme tu me l'as demandé. Mais sur cette partie-là, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Si tu dis ça, tu n'as pas une attitude rebelle. Par contre, ce qui dénote une attitude rebelle chez quelqu'un, c'est que la personne présente toujours un tableau comme si elle fait semblant qu'elle est soumise. Alors qu'elle ne l'est pas du tout. Qu'elle a un plan B. Qu'elle a prévu et qu'elle a fait des choses derrière ton dos. Ça, c'est vraiment l'attitude rebelle, du rebelle typique. Qui parfois sont sur des petites choses pas trop graves. Mais vous savez, ça dérape très vite. Rappelez-vous Cain, c'était juste une discussion entre lui et le Seigneur. Et ça s'est terminé avec un meurtre d'un homme créé à l'image de Dieu. ça va très vite. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du monde. L'esprit rebelle, c'est l'esprit du monde. Un jour, j'ai reçu un email d'un pasteur. Et il y avait un couple qui cherchait des histoires dans son église. Un couple que je ne connaissais pas, mais qui nous suivait par Internet. Et qui a commencé à me raconter plein de trucs sur le pasteur. C'est un pasteur qui vit très très loin d'ici, dans un pays très loin. Et il commence à me raconter plein de trucs sur le pasteur. Et en fait, ils ont été voir, le couple a été voir leur pasteur là-bas, à qui ils faisaient des histoires. Et ils disaient, oui, oui, nous on connaît le pasteur Olivier Derain, c'est notre pasteur. Alors que j'avais jamais rencontré ce couple. Mais comme ils avaient pris des cours, comme ils nous avaient suivis sur Internet, ils estimaient que... Et ils voulaient faire des histoires au pasteur. Le pasteur m'a écrit, il me disait, voilà, pasteur Olivier, ce sont des gens qui se réclament de votre ministère.
Et
évidemment, j'ai vu tout de suite qu'il y avait un problème de rébellion.
Ce n'était
pas difficile à voir. Et ce que j'ai bien sûr fait, j'ai écrit au pasteur. Ce sont des gens même qui ont téléphoné ici, je ne sais combien de fois, parce qu'ils voulaient me parler personnellement. Et moi, je ne voulais pas leur parler. On
ne
peut pas parler avec des gens qui ont une telle attitude. Je
ne
suis pas leur pasteur. Je ne peux pas m'occuper d'un problème comme ça. Et je sais que l'attitude derrière ça était une attitude rebelle. Et j'ai écrit au pasteur. J'ai dit, il est sur le site enseignement. Je lui ai dit, cher pasteur, moi, je n'ai pas à me mêler des affaires internes de votre église. Je ne connais pas personnellement ces gens-là. Je me souviens, à moins que je fasse une erreur, mais il me semble que je ne les ai jamais rencontrés. En tout cas, je ne les connais pas personnellement. Et je lui ai dit, moi, cher pasteur, c'est votre église. Je respecte votre autorité spirituelle. Et je ne peux pas voir avec ces gens-là directement. Parce que je sens qu'ils ont un problème de rébellion envers
nous.
Vous voyez, souvent les gens qui sont rebelles vont chercher quelqu'un d'autre. C'est comme des gens qui vous diront, vous savez, je vous écris ou je viens vous voir parce que j'ai un problème à régler dans ma vie. Et la chose que je leur dis toujours, je leur dis, qui est votre pasteur ? Et souvent, les gens écrivent par Internet en disant, oui, mais mon pasteur, je ne peux pas lui dire parce qu'il va... Un jour, quelqu'un m'a écrit en me disant, voilà, j'ai un problème personnel grave. Et cette personne avait des affinités familiales très proches avec un grand serviteur de Dieu. Il disait, je ne peux pas aller vers mes pasteurs parce qu'ils vont m'arrêter de servir, ils vont m'arrêter de faire ça, ou ils vont m'arrêter dans l'église.
Ben,
j'ai écrit, je dis oui, il faut que tu ailles vers tes pasteurs.
Vu
le problème que tu as, il faut qu'ils t'arrêtent pour l'instant dans l'église. Parce qu'il faut que tu règles ton problème. Et
vous
voyez, souvent les gens, quand ils voient qu'une porte risque d'être un peu difficile à passer, ils vont essayer de passer par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, ils vont ouvrir le toit. Et ils vont dire, on va faire comme les quatre qui ont porté, ils ont ouvert le toit, ils l'ont présenté à Jésus. Frères et sœurs, tout cela dénote une attitude de rébellion. Des gens qui essayent toujours de passer à côté de leur autorité. Quand nous péchons et qu'on est soumis à une autorité, quand nous faisons quelque chose de mal, on peut nous pardonner, Mais il faut être capable d'affronter ce qu'on est en train de faire. De subir les conséquences. Quel que soit le domaine sous l'autorité où on est. On peut parler de choses spirituelles, mais on peut parler dans le naturel. Celui qui a un caractère rebelle, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais être transformé par Dieu. Parce qu'il faut purger ça de lui. Et dans toute forme d'autorité, je vous le rappelle, il y a ce qu'on appelle les sanctions, de la correction. C'est justement ce qui permet de travailler nos caractères. Ceci ne fait pas de bien à notre chair, mais ça fait du bien à notre caractère. Et c'est bon.
Vous
voyez, par exemple, quand on parle de dirigeants de louanges, quand vous étudiez les dirigeants de louange dans le monde entier qui ont bien vieilli, il y a des gens qui vieillissent bien, Blasside, et des gens qui vieillissent moins bien. Amen. Tu es d'accord avec ça,
hein?
Ceux qui ont servi à dans des grandes dimensions dans la louange et l'adoration, ce sont vraiment des personnes qui ont compris cet aspect de ne pas tomber dans le piège de la rébellion. Parce que le succès peut monter à la tête. Par exemple, vous regardez un personnage que je respecte énormément, qui est Ron Kenoly. Ron Kenoly a su vraiment y faire avec ça. Il avait vraiment un esprit doux et soumis. Et Dieu l'a utilisé dans le monde entier. Cet homme, il a chanté devant des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes d'un seul coup. Dans une réunion. Mais toujours avec une attitude divine. C'est ce qui a fait son succès. Aujourd'hui, je ne sais pas, je crois que Ron Kenoly a plus de 65 ans, si mes souvenirs sont bons. Mais quand on voit ce qu'il a fait dans sa vie et comment il a su gérer le succès sans tomber dans la rébellion, ça a été formidable. C'est la même chose pour Hillsong avec
Darlene.
Et on voit les fruits de cela. Par contre, on a vu plein de gens monter, que ce soit dans la louange, que ce soit dans des ministères, à droite, à gauche, des gens qui commençaient à monter, à avoir une certaine popularité. Et d'un seul coup, ils se retrouvaient par terre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette graine. Et cette graine ne se manifeste jamais au départ. Elle se manifeste quand il y a des occasions de manifester ces choses. Saül, au départ, c'était un jeune homme très humble. D'ailleurs, quand le prophète l'a cherché pour le mettre roi, vous savez ce que Saül a fait ? Il s'est caché derrière des bagages, tellement il était timide et qu'il avait peur. Mais juste quand il est devenu roi, juste quelques temps après, oui, j'ai obéi à ce que le Seigneur avait dit. Il n'avait pas du tout obéi. La graine de rébellion se manifestera quand il y a de bonnes occasions. C'est pour ça qu'il faut l'enlever rapidement, il faut la tuer rapidement. Sinon, ça ressort à des moments terribles. La plupart des pasteurs qui ont eu des divisions dans leurs églises, vous pouvez leur poser la question. Ils vous diront, jamais j'aurais pensé que cette personne-là me fasse des problèmes. La plupart du temps, vous aurez ce commentaire-là. Dans le monde entier, j'essaye d'éveiller votre conscience par rapport à cette graine qui parfois est enfouie en nous. Et elle va tout ruiner si nous entretenons cette graine. Dieu va dire au travers du prophète Samuel, versets 22 et 23, on va lire ensemble, à propos de la rébellion. Il dit la chose suivante. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, c'est-à-dire la forme extérieure de ce que tu présentes devant lui, mon cher Saül, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable, ou la rébellion dans notre traduction, est aussi coupable que quoi ? La divination, la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu peux lire le verset 23 seulement, s'il te plaît. Donc, Dieu nous prévient dans sa parole. Moi, dans ma traduction, j'ai la rébellion. La rébellion, littéralement au verset 23, vaut plus que le péché de divination. Et la résistance vaut l'injustice des
théraphimes.
Et c'est étonnant parce que quand on parle de péché, par exemple, si on dit aux chrétiens, mais la sorcellerie, c'est une abomination devant Dieu, tout le monde est entièrement d'accord. C'est très clair. C'est du trafic avec les démons, c'est clair. Mais là, la Bible nous dit, la rébellion, c'est encore pire que ça. C'est la manifestation de l'esprit de ce monde. L'esprit rebelle. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Vous savez, parfois il y a des choses dans nos caractères qu'on ne comprend pas très bien. Il y a des fois des racines qui sont là et on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive comme problème tout le temps. Et puis, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. À ce moment-là, la parole commence à nous montrer qui on est réellement. Et c'est là où tu réalises. Elle t'aide, la parole. Elle t'aide à changer. Elle t'aide aussi à détecter certaines choses qu'il peut y avoir en toi. Qui ressortent qu'à certains moments dans ta vie, qui ne ressortent pas du jour au lendemain. Et là, la Bible nous en parle. Elle dit que la rébellion, c'est pire que la sorcellerie. Imaginez-vous, nous sommes tous choqués. Si on vous disait, un chrétien, soi-disant, un chrétien fait de la sorcellerie, on dirait, quoi ? Il n'est pas chrétien. Tout le monde dirait ça. Si on te dit un chrétien va voir les sorciers et fait de la sorcellerie avec ces gens-là, tu vas dire, mais cette personne-là n'est pas sauvée, c'est normal. Et tu dirais juste, un chrétien ne peut pas aller trafiquer avec les démons. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Et là, la Bible nous dit clairement la rébellion. Ça vaut la sorcellerie. Waouh! Et des fois, la parole de Dieu a des affirmations qui sont terribles. Alors, il y a une autre chose. Et on va clôturer par ça. Enfin, non, j'ai encore deux choses à vous dire. Je vous avais dit que j'en parlerais quand j'ai fait l'enseignement sur les dîmes et les offrandes. On va lire le même passage qu'on a lu tout à l'heure dans les dîmes et offrandes, dans Deutéronome 19, verset 14. Quelque chose qu'il faut vraiment saisir à propos de ce qu'on reproduit. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Donc, en fait, la Bible nous montre clairement que nous devons faire attention. Parce que quand nous avons, par exemple, quand quelqu'un a une attitude rebelle, une mère, par exemple, a une attitude rebelle par rapport à son mari, eh bien, vous verrez que les filles vont avoir une image de l'autorité qui va être détruite. Un père qui est rebelle aux lois, par exemple. À chaque fois qu'il y a une loi, il s'arrange toujours pour passer à côté. Eh bien, ses enfants, ses fils vont reproduire ce genre de choses. C'est typique. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Regardez autour de vous. Vous allez vous en apercevoir que le leader va se reproduire dans les gens qu'il forme. C'est la famille. Ça peut être la société dans laquelle on travaille.
Ça
peut être dans les églises. Quand vous avez quelqu'un qui vous a amené à Jésus, qui commence à parler mal d'un pasteur, vous êtes éduqué comme ça. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Au début de ma vie chrétienne, le couple qui nous a amené à Christ, qui était vraiment des gens formidables dans la foi, dans les choses de l'esprit, ils prophétisaient, ils donnaient des paroles de connaissance, ils priaient pour les malades. Vraiment, c'était, pour des chrétiens, c'était super.
Mais
il y avait un gros défaut dans lequel on a été formé. C'était... Et c'était des choses rebelles. Rebelles. Constamment des critiques. De la rébellion. On avait des réunions où on commentait pratiquement le sermon du pasteur le dimanche.
Mais
vous voyez, la mauvaise façon. Avec tout ce qui était mauvais, on le faisait ressortir et on l'amplifiait. Et ça, moi, ça avait vraiment créé quelque chose de mauvais en moi. Et ça m'a coûté plus tard. Ça m'a vraiment coûté plus tard. Où j'ai fait une grave bêtise. Mais je ne vous la raconterai jamais. C'est trop mauvais ce que j'ai fait. Parce que j'ai violé ce principe. Parce que j'avais été éduqué d'une façon rebelle. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'est reproduit dans ceux qui nous ont amenés au Seigneur. C'est pour ça que si vous amenez des gens en dehors de l'église locale, que vous priez pour des gens, intégrez-les dans l'église. Rapidement. La plupart des groupes qui ont poussé en dehors des églises locales et qui ont vécu des choses fortes ont eu de sérieux problèmes après. Et les chrétiens qu'ils ont produits, s'ils n'ont pas été formés tout de suite à s'intégrer dans l'église, cela produit des gens qui poussent en dehors de l'église et en dehors de l'autorité pastorale. Et je vous le dis parce que je l'ai vu partout dans le monde. Partout dans le monde. J'ai vécu sur 3 continents, je vois les mêmes choses et j'ai vu les mêmes choses et je revois les mêmes choses se produire. Dernière chose que je voulais vous dire là-dessus. Je ne vous ai pas fait un sermon en 3 points, je vous ai fait un sermon où il y a X points volontairement. Dans Nombre chapitre 12, montrez la destruction que ça peut produire dans nos vies. Nombre chapitre 12. Que la rébellion peut produire chez des personnes. Si vous lisez ce chapitre, vous verrez que chez des personnes, si vous lisez ce chapitre, ça vous parlera de l'autorité spirituelle. Si je peux vous conseiller un excellent livre qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est Watchman Nee, qui s'appelle l'autorité spirituelle. Il fait un excellent commentaire sur ce passage. Donc Marie et Aaron, c'était qui? C'était la sœur et le frère de Moïse. Parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3, Or l'Éternel l'entendit. Ah. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Verset 4, soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation, la tente de rencontre, là où la présence de Dieu se manifestait, et ils y allèrent tous les trois. Verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, c'est-à-dire dans la gloire. La nuée, ce n'est pas un nuage, c'est la gloire de Dieu qui se manifestait, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela à Aaron et à Marie qui s'avançaient tous les deux. Verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète qui est dans une vision, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, et c'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7, il n'en est point ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme. Mais il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc, regardez bien, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. 10, La nuée se retira dessus de la tente et voici que Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. La lèpre, on n'en guérissait pas à l'époque. Aaron se tourna vers Marie et dit, « Voici, et voici, elle avait la lèpre. » Verset 11, « Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. » Verset 12, « Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la. » Il y en a beaucoup qui auraient dit, « Oh Seigneur, tue-la. » Mais Moïse était vraiment un homme de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, moi j'admire beaucoup le caractère de Moïse. Il a fait ses erreurs, d'ailleurs on va le voir ici, mais il avait vraiment un caractère exceptionnel. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Si son père lui-même lui avait craché au visage, imaginez-vous. Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Verset 15, Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût entrée. Je pense qu'il y avait des commentaires sur cet événement de la part du peuple, n'est-ce pas? Radio Trottoir avait dû marcher. Après cela, le peuple partit, etc., etc. Ici, on voit typiquement des personnes qui se servent de la faiblesse d'un leader pour essayer de créer une rébellion. Moïse avait tort. Si vous étudiez la vie maritale de Moïse, eh bien vous découvrirez qu'il était marié avec Séphora quand il avait fui dans le désert de Paran. Madian. Et là, il avait été recueilli par Jéthro. Il s'était marié avec une de ses filles. Il avait eu des enfants. Et quand Dieu va le rappeler bien plus tard, dans le désert, Moïse, si vous étudiez bien la parole de Dieu, eh bien vous verrez que Moïse va partir en Égypte avec sa femme et ses enfants. Il va en Égypte, il y a tout ce qui se passe, ils sortent d'Égypte miraculeusement. Et si vous étudiez le chapitre 18 de l'Exode, vous allez voir que Moïse n'était plus avec sa femme. Et Jéthro va venir voir Moïse au chapitre 18 de l'Exode. Et Jéthro va ramener donc sa fille, la femme de Moïse, il va venir avec elle et avec ses deux enfants voir Moïse. Mais apparemment, elle ne va pas rester, ni les enfants. En tout cas, sa femme ne va pas rester. Elle va apparemment repartir parce que Jéthro a essayé de réconcilier Moïse avec sa femme. Étudiez bien ces passages. Vous lirez ça dans Exode 18, vous lirez dans Exode 4 aussi. Donc, ce que Aaron et Marie reprochait à Moïse, c'était d'avoir pris une femme éthiopienne. Il reproche ça, c'était vrai. Mais en fait, l'objet c'était d'utiliser l'erreur de Moïse pour aller contester quoi? Son autorité spirituelle. Et ça, c'est l'esprit rebelle. Ils auraient pu dire à Moïse, écoute Moïse, là, franchement, tu as une histoire sur le dos. Règle ça parce que ça nous crée des problèmes. Mais
ce
n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé ce que Moïse avait fait, qui n'était pas bien, mais ils l'ont utilisé en vue en fait, de lui faire un croche-pied et de le faire tomber. Et ça, c'était mauvais. Et Dieu a défendu qui? D'abord, qui avait tort? Moïse, vous êtes d'accord? Moïse avait tort au départ. Ça a commencé parce que c'est lui qui a fait une gaffe. Mais son frère et sa sœur viennent se présenter devant lui en disant tu as pris une femme éthiopienne. Mais l'agenda qu'ils avaient, c'était de dire, mais les gars, Dieu ne parle pas seulement à Moïse.
Hein.
Nous aussi, Dieu peut nous utiliser. Sous-entendu, nous aussi, on peut conduire le pays. Voyez bien, lui, il a fait une gaffe. Donc, nous, on est bien, on est parfaitement saints. C'est nous qui allons vous conduire maintenant. Et ça, c'est l'esprit rebelle. L'esprit rebelle utilise toujours les erreurs d'un leader pour le faire tomber. L'esprit rebelle prend une erreur d'un leader, l'amplifie, l'amène publiquement, l'objectif étant que ce leader se soit discrédité de la part du peuple, et l'objectif est de prendre la place. C'est la méthode de l'esprit rebelle. Vous le trouverez régulièrement, ça. Moïse avait tort. Mais ils ont essayé d'être rebelles contre lui. Et Dieu a sanctionné qui ici? Dieu a sanctionné qui? Il a sanctionné Marie. Il a sanctionné ceux qui étaient rebelles. Il n'a pas sanctionné celui qui a fait la faute. Pourquoi? Parce que si Dieu avait sanctionné Moïse, il aurait donné raison à l'esprit rebelle. Maintenant, comment cette affaire s'est réglée entre Moïse et Dieu? Ça, j'en sais rien. La Bible ne dit rien là-dessus. Par contre, la Bible montre clairement que souvent l'esprit rebelle utilise une faiblesse de quelqu'un en qui les gens veulent se rebeller contre qui, et ils amplifient ça pour faire du mal. Vous verrez, des gens peuvent ternir une image publique de quelqu'un en utilisant une erreur que cette personne a faite, en l'amplifiant et en essayant de faire tomber cette personne. Et ça, c'est l'esprit rebelle qui fait ça.
Ce
n'est pas la mentalité de Dieu. Si Dieu veut quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre, regardez l'exemple de David. David était un homme ultra soumis. Il s'est fait poursuivre par Saül. Il a eu deux fois l'occasion de tuer Saül. Mais il n'a pas touché à Saül. Parce qu'il connaissait ce principe divin. Et il savait qu'il allait ruiner sa destinée s'il violait ce principe. Que tout le monde courbe sa tête, nous allons prier un moment. Père, je te remercie pour ta parole. Père, merci parce que ta parole nous enseigne à nous voir comme au travers d'un miroir, Seigneur. Et à voir aussi, Seigneur, là où il y a des graines qui sont mauvaises, qui pourraient pousser et, Seigneur, ruiner tout ce que tu veux faire au travers. C'est pourquoi je te prie, Père Céleste, pour que chaque personne puisse examiner, pour connaître son cœur. Mais aussi, Père, je prie pour que tu fasses ici, parmi ce peuple, des instruments qui vont peut-être aider d'autres personnes, d'autres chrétiens, dont ils entendent qu'ils commencent à se mettre dans des choses qui sont de la rébellion. Père, merci parce que tu veux que nous comprenions, que nous ayons la révélation de la soumission. Tu veux que nous ayons la révélation, Seigneur, de tout ce qui peut être néfaste et qui peut détruire ton royaume, Seigneur, ou détruire nos vies. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aimes et tu veux, Seigneur, que nous comprenions ces choses afin d'aller plus haut, plus loin avec toi, afin de remplir notre destinée. Merci pour ce peuple, Seigneur, ce peuple qui est un peuple obéissant, ce peuple qui apprend ce qu'est l'autorité et la soumission. Je te remercie, mon Père, dans le nom précieux de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voilà, soyez bénis.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.